France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Mon tour du monde avec un cancer. Le navigateur Charlie Dalin révèle comment il a gagné le dernier Vendée Globe avec un intrus à bord, comme il dit, et dans le plus grand secret, nous verrons cela. Depuis, il ne navigue plus et il est toujours soigné. À suivre encore les dernières heures de négociations autour de Sébastien Lecornu avec la bataille de la réforme des retraites. Faut-il la suspendre ou pas? Pour nous, ça ne change rien. Dit ce matin Marine Le Pen.
Ah oui, oui, je censure tout, moi, là, maintenant. Tout. Je censure tout. Voilà, là, maintenant, stop. La plaisanterie a assez duré. Voilà.
Faut-il suspendre? Comment suspendre? La secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, sera notre invitée dans les prochaines minutes. Nous parlerons également de cette fillette enlevée hier soir dans l'Orne. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Elle a été retrouvée.
Oui, l'alerte enlèvement n'aura heureusement duré que quelques heures, comme le 25 septembre dernier. Et encore dans l'Orne, là c'est le père de l'enfant qui a été rapidement suspecté. Il a été interpellé en Bretagne et la petite fille retrouvée saine et sauve, selon le procureur d'Alençon.
A tout de suite pour vos précisions. Nous irons à Nîmes également. Le procès en appel des viols de Mazan. Assumez votre acte, a lancé ce matin Gisèle Pellicot, au seul accusé qui a fait appel. À partir de 13h30, le service public. Quel sens cela a-t-il de travailler pour le service public aujourd'hui? On se pose la question en pleine crise politique, alors que le coût des services publics est souvent montré du doigt, tout comme leur fermeture dans les quartiers, dans les campagnes. Un documentaire hors service sort en salle aujourd'hui. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Pascaline Lemaire fut pendant des années l'indispensable correspondante de presse de Nord Littoral à Calais. Elle est morte la semaine dernière. Cécilia Arbona lui rend hommage. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le ténor Sébastien Guèze choisit Kissing You par Desui.
Cette chanson, elle surgit lorsque je suis, on va dire, adolescent. Et je me suis dit à ce moment-là, cet art est tellement beau, être artiste c'est tellement beau, pour moi ça a été vraiment un catalyseur de ce que je voulais faire de ma vie.
Et ce sera avec Frédéric Pommier, sans oublier les sorties cinéma en ce mercredi, avec Alexis Demeyère. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le tour du monde en solitaire, à la voile et avec un cancer. C'est le récit à peine croyable que livre donc le navigateur normand Charlie Dalin, vainqueur en janvier dernier du Vendée Globe, en seulement 64 jours. Il raconte, dans un livre à paraître demain, comment il a triomphé avec dans le ventre une tumeur gastro-intestinale. À mes côtés, pour comprendre comment cet exploit a été possible, Emma Sarango. Bonjour Emma. Vous avez suivi, bonjour,
bonjour.
Vous avez suivi pour France Inter ce Vendée Globe. D'abord, écoutons Charlie Dalin au micro d'Inter ce matin en exclusivité.
Ce jour-là, c'est une double victoire, quoi. C'est bien sûr la victoire de cette course légendaire qu'est le Vendée Globe, qui me fait rêver depuis que je suis petit. Mmh. Et c'est aussi une victoire contre cette maladie, quoi, qui s'est déclarée presque pile un an avant le départ de la course. Et voilà, et j'arrive malgré tout à la remporter. Et c'était un jour incroyable. Ce qui est sûr, c'est que si les médecins m'avaient dit que c'était pas raisonnable ou même qu'ils avaient juste émis des réserves, j'aurais pas pris le risque de faire cette course. Professeur Le Sen m'a dit que c'était possible en janvier 2024, au tout début de l'année. En fait, en me rassurant, en me disant qu'il avait d'autres sportifs de haut niveau qui avaient le même traitement. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me dis que ce Vendée Globe est possible, est envisageable.
Charlie Dalin avec Sonia De Villers. Alors, il ne navigue plus en ce moment. Le cancer n'est pas guéri, mais stabilisé. Ce sont ses mots. Et il espère pouvoir, dans les prochains mois, prendre le départ d'une course. Mais revenons un peu en arrière avec vous, Emma Sarango. Quand Charlie Dalin prend le départ le 10 novembre 2024 au Sable d'Olonne, personne n'est au courant.
Personne dans le monde de la voile. Il y a sa femme, évidemment, son fils qui a 7 ans aujourd'hui, mais au sein de l'organisation du Vendée Globe, en effet, personne n'est au courant, pas même le directeur de course. Charlie Dalin explique que c'est comme une avarie à bord. Il préfère gérer, régler ça, comme il dit, avant d'en parler. Alors, dans ce petit microcosme de la course au large, l'annonce de sa maladie est évidemment bouleversante. Mais finalement, ce sont eux, les skippers, qui comprennent le mieux ce choix de Dalin d'aller au bout. Yann Eliès a navigué avec lui sur la Transat Jacques Vabre il y a 6 ans.
Ça peut paraître improbable, incroyable, ça peut laisser pantois. C'est sûr que la victoire et l'exploit, il est double, parce que déjà sportivement, en temps normal, il faut aller la chercher, cette victoire. Mais là, en plus, avec cette maladie, chevillé au corps, c'est encore plus exceptionnel, mais ça ne m'étonne pas et il a fait le bon choix, même si peut-être que derrière ça a engendré des complications. Je pense que le fait de l'avoir gagné, tout simplement, ça lui a donné raison, quoi.
La victoire lui a donné raison à lui et au corps médical qui l'a encouragé, en tout cas, ne l'a pas dissuadé de s'aligner sur ce Vendée Globe.
Oui, il a embarqué avec son traitement à bord. Comment cela s'est organisé?
Eh bien, il était assez léger. L'immunothérapie, c'est un cachet à prendre tous les jours à heure fixe. Charlie Dalin s'y est évidemment astreint. Il raconte que ce traitement lui a permis de vivre la course quasiment normalement. Bien sûr, plus de fatigue. Il a rallongé ses plages de sommeil. Bien sûr, une alimentation un peu différente, même si lyophilisé. Interdiction par exemple au citron ou à l'ail. Et bien sûr, un suivi renforcé de la part du médecin du Vendée Globe, Laure Jacolot, qui était la seule à terre à être au courant.
On a l'habitude d'encadrer des sportifs avec des maladies chroniques, mais une maladie dont était porteur Charlie et avec un enjeu conséquent qui est le Vendée Globe, eh bien c'était une difficulté supplémentaire dans notre pratique.
Le docteur Jacolot, qui est encore évidemment soumise au secret médical, qui ne nous dira donc pas s'il a fallu assister Charlie Dalin à certains moments, mais elle confie évidemment avoir été inquiète, plus inquiète pour lui que pour les 39 autres skippers.
Je ne vous cache pas que quand il a mis le pied sur le ponton à l'arrivée des Sables d'Olonne, j'étais certes très émue, ravie, mais très ému aussi parce que, évidemment, c'est une partie de ma charge mentale qui diminue d'un coup.
Le docteur Jacolot qui continue à suivre aujourd'hui Charlie Dalin et qui, comme le reste du corps médical, l'a beaucoup encouragé à révéler aujourd'hui sa maladie.
Merci Emma Sarango. Cette interview sur Inter à réécouter en longueur sur l'application Radio France. Le livre s'intitule « La force du destin ». Il sort demain aux éditions Gallimard. Elle a été arrachée de si hautes luttes avec l'aide du 49-3 malgré des semaines de manifestations et malgré l'opposition d'une majorité de Français. La réforme des retraites, la réforme du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est-elle en train de passer à la moulinette pour éviter une dissolution de l'Assemblée? Même l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui l'a portée contre vents et marées, se dit aujourd'hui favorable à sa suspension. Mais nous n'y sommes pas. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Matignon, à Paris, le siège du Premier ministre. Sébastien Lecornu a reçu les socialistes ce matin. Ils sont sortis extrêmement prudents. Ils n'ont obtenu aucune garantie, disent-ils.
Oui, et c'est ce qui les rend méfiants. Les socialistes redoutent un leurre, une mascarade. Alors, face à Sébastien Lecornu, le patron du PS, Olivier Faure, a tenu à maintenir la pression.
Il a bien compris que nous ne serions pas prêts à accepter n'importe quel type de suspension et que si c'était un écran de fumée, nous n'accepterions évidemment pas et que nous ne désarmerons pas.
Les socialistes ont aussi demandé des éclaircissements sur la trajectoire budgétaire. Selon eux, Sébastien Lecornu assure qu'il y a des marges de manœuvre. Il a aussi réitéré sa volonté de ne pas utiliser le 49-3 dans le débat budgétaire. Mais Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée, sait qu'il est changé avec un Premier ministre démissionnaire.
Nous imaginons qu'il sera le porteur de nos messages auprès du président de la République, auquel on dit que dans son propre camp, des voix se font entendre pour dire que la solution consiste à regarder du côté de la gauche.
Pour les socialistes, la meilleure des garanties, c'est de nommer la gauche à Matignon. Mais ils ont tenu à couper court aux élucubrations d'un gouvernement commun avec la Macronie. On verra si Sébastien Lecornu reste aussi optimiste que ce matin, quand il saluait une volonté de convergence des différentes forces politiques qui éloignent, selon lui, la perspective d'une dissolution.
Merci Sonia Gobry. Avec les moyens techniques de Benjamin Reyes, aucune assurance donc sur la suspension de la réforme des retraites et la droite qui s'insurge. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Suspendre cette réforme est une ligne rouge, disent les Républicains ce matin.
Oui, c'est fameuse, hein, ligne rouge. En voilà une vraie pour les Républicains. Du moins, en apparence, pas de retour en arrière sur cette réforme des retraites, nous a assuré ce matin l'entourage de Bruno Retailleau. Le patron des LR répète qu'il n'a jamais été question de céder sur ce point. Alors que se passera-t-il en fin de journée si la proposition de suspension de la réforme est retenue par Sébastien Lecornu, ce qui est loin d'être acquis, vous l'avez compris? Eh bien, les députés et les sénateurs LR se retrouveront ensemble ce soir lors d'une visio pour adopter une ligne, à minima une non-participation à un gouvernement qui soutiendrait cette mesure, insiste un conseiller du parti. Peut-être une censure, en tout cas ce n'est pas certain que les Républicains parlent d'une seule voix sur le sujet, comme ça a été le cas depuis 2 ans, on s'en souvient, groupe divisé lors de l'adoption du texte, des parlementaires qui plaident depuis plusieurs semaines pour cette option de la suspension, la concession la plus acceptable pour l'électorat de droite, assure-t-il. et puis un député me confie même que lui était partisan carrément d'un référendum sur la question, une fois un budget de compromis trouvé avec les socialistes.
Jérôme Val, critique et division donc chez LR, c'est la même chose au sein du Bloc central. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
La bataille des retraites fait rage aussi chez les macronistes.
Oui, est-ce que nous allons vraiment dilapider nous-mêmes notre propre héritage? Question posée hier soir par certains députés Renaissance dans leurs boucles internes qui se sont embrasés après la sortie d'Elisabeth Borne dans Le Parisien, ce virage sur la réforme des retraites qu'elle avait elle-même portée sous les sifflets de l'Assemblée et de la rue. Comment se résoudre à liquider la seule réforme structurelle adoptée depuis 2022 et dans la douleur, des heures, des nuits dans l'hémicycle, des menaces parfois, leur permanence vandalisée. Olivier Dussopt, ministre du Travail de l'époque, dont la voix s'était éteinte pendant l'examen du texte, s'est fendu d'un message ce matin dans une boucle d'anciens députés. Je ne crois pas que le compromis se construise sur un déni comptable. D'autant, abonde un député, que cette réforme a une portée symbolique et que sa suspension enverrait, dit-il, un message délétère au marché, aux investisseurs et à Bruxelles. D'accord, mais c'est ça ou la dissolution, et auquel cas il ne restera rien du tout de notre héritage, opposent plusieurs élus Renaissance. Si le RN obtient une majorité, ils se chargeront de l'abroger. Un dilemme, donc, qui déchire le camp présidentiel. Qu'en pense Sébastien Lecornu lui-même? Il n'a pas donné son aval à Elisabeth Borne avant son interview, assure Matignon, mais il est libre de négocier, assure-t-on à l'Élysée.
Merci Marie Mollet, le Premier ministre démissionnaire en dira peut-être plus ce soir, invité du journal de 20h de France 2. Alors il y a ceux qui participent à ces discussions en ce moment, et puis les autres, les insoumis, leur motion de destitution contre le président a été retoquée ce matin par le bureau de l'Assemblée nationale. Et le Rassemblement national, Marine Le Pen visitait ce matin le salon de l'élevage de Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Vous l'avez suivi, Lise Roosevelt, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen n'en démord pas, c'est censure.
Oui, Marine Le Pen, tout sourire au milieu des stands des agriculteurs sous le soleil auvergnat, bien loin des consultations à Matignon.
Oui, je préfère être ici qu'à Paris.
La piste d'une suspension de la réforme des retraites, une bonne chose, se réjouit-elle, elle qui a toujours plaidé pour l'abrogation, avant d'ironiser.
Non, je crois qu'ils seraient capables de se couper un membre pour pouvoir rester à leur place.
Donc c'est exactement ce que vient de faire Elisabeth Borne. Ou plutôt un membre d'Emmanuel Macron, par ailleurs.
De là à censurer d'office un gouvernement qui proposerait ce que le RN réclame depuis des mois.
Je censure tout. Voilà. Là, maintenant, stop, la plaisanterie a assez duré. On ne peut pas admettre qu'on contourne à ce point les institutions de la Ve République. Donc on siffle la fin de la récréation.
Marine Le Pen n'a qu'une chose en tête, la dissolution. Elle est déjà en campagne dans les allées du salon, bain de foule, selfie, critique du Mercosur, de la politique agricole commune. Et dans ce contexte politique incertain, elle veut se montrer aux côtés des agriculteurs.
La double incertitude, la double peur du lendemain.
Ça devient très compliqué. Ouais. Petite boîte, moi j'ai une quinzaine d'employés. Je pose beaucoup de questions.
Marine Le Pen déjà projetée dans des hypothétiques législatives anticipées. Une perspective qui s'éloigne, dit Sébastien Lecornu. Je le trouve bien optimiste, lâche-t-elle dans un grand sourire.
Merci Lise Roosevelt en direct de Cournon d'Auvergne avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Bonjour Marie-Lise Léon.
Bonjour.
Secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat du pays. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
C'est votre première prise de parole depuis lundi et la démission du Premier ministre. Qu'avez-vous pensé en lisant ce matin Elisabeth Borne dans la presse déclarée? Dans le contexte actuel, il faut savoir écouter et bouger. Et donc, pourquoi pas une suspension de la réforme des retraites?
Moi, je lui dis banco. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des responsables politiques qui soient à la hauteur du moment qu'on est en train de traverser. On traverse une profonde crise démocratique depuis des mois. Maintenant, la réforme des retraites, c'est une blessure démocratique extrêmement forte. Et entendre des responsables politiques prendre véritablement leurs responsabilités et se dire « écoutons les citoyens et les citoyennes et ça, prenons nos responsabilités et bougeons sur un certain nombre de lignes », moi je pense que c'est extrêmement important. Ça, c'est le signal qu'il y a une voie de passage qui est possible. C'est une suspension de la réforme des retraites. C'est ce que la CFDT demande depuis des mois. On l'avait demandé avant même le démarrage des discussions dans le cadre du conclave. Donc c'était au mois de janvier de cette année. Donc allons au bout. Allons au bout. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que personne ne parle des travailleurs. Personne ne parle des gens qui sont concernés par cette réforme. On a fait le calcul, nous, un décalage. On arrête de décaler l'âge légal jusqu'à 64 ans. On s'arrête maintenant. On bloque le compteur.
Donc on en est où ? On est à 63 ans ?
On est à 62 ans et 9 mois. Ça veut dire qu'on arrête maintenant.
Et ça, ça, et ça, ça, ça si veut on dire s'arrête à 62 on s'arrête ans, là, 9 mois.
Et, oui, mais ça, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas et on croise les bras et on attend les prochaines échéances. Ça veut dire qu'on se met au travail aussi pour un vrai débat de qualité. C'est quoi l'avenir de la réforme des retraites? C'est quoi le régime des retraites pour la présidentielle 2027? Et en fait, nous, on a fait le calcul, c'est à peu près 600 000 personnes qui pourraient être concernées par ce blocage de l'âge. Moi, je trouve que ça, ça vaut le coup de se battre jusqu'au bout pour que la suspension, elle rentre véritablement en vigueur. Et les partis politiques, ils nous disent aujourd'hui, de façon plus ou moins en fanfare ou non, soit ça veut dire qu'ils ne veulent jamais, ils ne feront jamais de compromis sur quoi que ce soit, soit ils ont peur de perdre la présidentielle. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun risque à prendre et qu'aujourd'hui, vu la situation démocratique, il faut cette suspension de la réforme des retraites.
Pourtant, Marie-Lise Léon, dans ce que François Bayrou avait appelé le conclave, vos discussions avec le patronat, vous aviez fait le deuil de revenir sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.
Aujourd'hui.
C'était plus une ligne rouge pour vous.
Non, c'est que on avait joué le jeu. On avait joué le jeu de dire on rentre dans la discussion sans totem ni tabou. C'est le MEDEF qui a jamais voulu qu'on aborde la question de l'âge.
Et vous étiez resté dans cette
CFDT,
discussion.
Elle a jamais été d'accord avec les 64 ans. On ne l'était pas plus au mois de janvier qu'on l'est aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est en quoi on va changer la vie des gens. Je vous dis, c'est 600 000 personnes qui vont être concernées par ce non-décalage de l'âge légal et à qui on dit, eh ben, on va remettre les choses à plat, reprendre les choses dans le bon sens et avoir un vrai débat.
Mais à quel prix, Marie-Lise Léon, vous avez entendu les estimations ce matin sur Inter du ministre de l'économie démissionnaire, Roland Lescure.
Ouais.
Ça va coûter des centaines de millions en 2026, des milliards en 2027. Est-ce qu'on en a les moyens?
Alors moi, le milliard en 2027, je ne suis pas du tout. Je demande les chiffres. Je demande la transparence sur les chiffres, ce qu'on n'a jamais réussi à obtenir véritablement. C'est 500
Donc c'est
millions.
Faux ce que dit Roland Lescure.
Non, je ne dis pas que c'est faux, j'ai dit que je demande à voir et qu'à un moment, il ne suffit pas de déclarer des chiffres, il faut pouvoir dire clairement sur quoi ça s'appuie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, 500 millions, c'est ce qu'on estime de 500 millions d'euros pour 2026. Quand on compare le prix d'une dissolution estimée par l'OFCE à 15 milliards, je pense que c'est un coût tout à fait accessible pour avoir une stabilité politique. Et c'est ce à quoi aspire profondément une très grande majorité des citoyens et des citoyennes qui n'en peuvent plus de voir ces responsables politiques parler des marchés financiers, parler de comptabilité, ça a été encore dit tout à l'heure. Enfin,
Mais ça veut dire qu'on renonce
de
à l'équilibre financier
non,
du système de retraite.
Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, on peut se permettre cette suspension parce que démocratiquement, ça serait un signal extrêmement fort. Je vous rappelle que c'est une réforme qui n'a jamais été débattue à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, se dire on renvoie les éléments en 2027, rendez-vous au moment de la présidentielle. Je ne vois pas de quoi ont peur les partis politiques qui aujourd'hui nous disent que c'est absolument impossible. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont perdre l'élection et qu'ils ne pourront pas développer leur programme. Et donc, on a les moyens de se permettre. Et je pense que l'urgence, c'est la stabilité politique.
Avez-vous eu des échanges sur ce point avec le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu,
alors,
ces dernières
pas
heures?
Depuis qu'il est démissionnaire, je ne l'ai pas eu depuis lundi, mais lors des échanges qu'on a eus dans les débuts au moment de sa nomination, la question de la suspension a été toujours dans le package qui a été porté par la CFDT. Comme on a porté la question de la pénibilité, qui reste extrêmement importante, et l'équité en matière de retraite des femmes.
Merci Marie-Lise Léon.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous dans ce 13-14, secrétaire générale de la CFDT. Alors depuis lundi et l'annonce de la démission du Premier ministre et de son gouvernement, comme à chaque événement qui marque l'opinion, il est accompagné de son lot de fake news, mais aussi d'interrogations légitimes. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes là. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Autour d'un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce 13-14, ce sont les indemnités des ex-ministres.
Oui, la polémique a enflé sur les réseaux sociaux avec des comptes très suivis affirmant que les ministres démissionnaires bénéficieront, je cite, de 3 mois de salaire, soit 28 000 euros. En commentaire, des centaines d'internautes s'indignent. Comment un ministre resté quelques heures à son poste peut-il obtenir cette somme? Réponse de Sébastien Lecornu ce matin, ces ministres ne toucheront rien.
Il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur dans la suite des autres décisions que j'ai pu prendre.
Pour que ce soit bien clair, lorsqu'un ministre quitte ses fonctions, il peut bénéficier d'une indemnité équivalente à 3 mois de salaire, soit environ 27 500 euros net. Et peu importe la durée d'exercice dans un gouvernement, le temps de souffler, de trouver un nouvel emploi. En revanche, cette indemnité n'est plus versée quand un ministre reprend un travail, une activité rémunérée. Cette décision de Sébastien Lecornu rejoint une autre mesure symbolique annoncée peu après sa prise de fonction mi-septembre, la fin des avantages octroyés aux anciens chefs du gouvernement, comme la protection policière et la voiture de fonction. En 2019, le budget total des avantages destinés aux anciens premiers ministres s'élevait à 4,4 millions d'euros.
Merci Victor Vasseur.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
L'alerte enlèvement avait été déclenchée hier soir après la disparition, l'enlèvement donc d'une petite fille de 3 ans dans le département de l'Orne. Et on a appris juste avant 13h qu'elle avait été retrouvée. Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. Petite fille retrouvée et son père interpellé.
Oui, les gendarmes et les policiers n'avaient pas de piste malgré le dispositif épervier déclenché hier. 120 gendarmes déployés, notamment un hélicoptère, un drone. La voiture du papa s'était volatilisée, une Peugeot 308 blanche, avant d'être localisée et retrouvée hier soir près d'Alençon. L'homme a finalement été interpellé ce midi à Saint-Avé dans le Morbihan avec sa petite fille. Le 25 septembre dernier, lors du déclenchement de la dernière alerte enlèvement à Dompierre, dans la même région, en Normandie, c'est une commerçante bretonne qui avait vu passer l'alerte, qui a prévenu les gendarmes. Elle avait vu passer le suspect, la jeune adolescente portée disparue là. On ne sait pas comment la voiture a d'abord été localisée, le père interpellé, la fillette localisée et retrouvée ce matin. Si c'est cette photo diffusée depuis hier soir, ce signalement sur cet enfant originaire de Mongolie, ses yeux et cheveux noirs, une mèche sur le front avec son doudou Mickey qui a permis donc sa localisation. Mais ce sont finalement bien les policiers de la brigade de recherche et d'intervention lancés sur ces traces qui l'ont retrouvée saine et sauve, selon un communiqué du procureur d'Alençon.
Emmanuel Leclerc pour ces informations. Un face-à-face, mère, fils, ce matin devant la cour d'assises du Tarn. Nadine Jubilard face à son fils Cédric, accusé du meurtre de Delphine, son épouse, c'était en 2020 à Cagnac-les-Mines. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct d'Albi, une mère qui a livré à la barre ses regrets.
Terriblement digne, dans son costume bleu électrique, Nadine se présente à la barre, envahie par la culpabilité. Notamment ce jour, 3 semaines avant le drame, quand son fils lui a dit, en colère contre Delphine qui voulait divorcer, « J'en ai marre, je vais la tuer et l'enterrer, et personne ne va la retrouver. » Je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase, confie Nadine. « Quel sens ?» insiste un avocat. « Ah, c'est une véritable torture, » hésite Nadine. « Non, je ne peux pas, je comprends très bien votre question, mais je ne peux pas. » Elle ajoutera quand même. Même si j'avais pris cette phrase un peu plus au sérieux, on ne serait pas là. Alors courageusement, Nadine admettra tout le reste de cette terrible réalité, les fréquents accès de violence de son fils, ses comportements choquants et impulsifs, ses mensonges, ses contradictions. Oui, 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 confirme-t-elle à 2 mètres d'un Cédric Jubilard qui ne réagit pas devant cette mère qui le lâche. Il demandera juste à ses avocats de ne pas lui poser de questions. Alors avec cette incroyable dignité, Nadine conclut qu'elle veut désormais le bien-être de ses petits-enfants. Je veux découvrir la vérité pour eux, insiste-t-elle. Ce n'est plus la mère de l'accusé, mais cette grand-mère qui quitte la salle d'audience au terme de 2h30 d'une déposition qui aura effacé toutes les incertitudes apparues au cours des 10 précédents jours d'audience.
Jean-Philippe Degnaud avec les moyens techniques de Christophe Papon. Manifestement, Gisèle Pellico n'a rien perdu de sa combativité 10 mois après le premier procès des viols de Mazan. Elle est depuis lundi à la cour d'assises du Gard pour le procès du seul accusé qui a fait appel, Oussamettine Dogan, accusé de l'avoir violée. Et ce matin, Gisèle Pellico s'est adressée directement à l'accusé. Sur place, Mathilde Lemaire.
Il y a d'abord eu le visionnage difficilement soutenable pendant 20 minutes de l'intégralité des vidéos tournées par Dominique Pellico quand l'accusé est venu à Mazan. Les jurés se sont décomposés face aux images de cet homme s'affairant sur une Gisèle Pellico complètement inerte, ronflant même. Il y a eu l'interrogatoire ensuite du Samettine D, désinvolte, répétant qu'il avait cru à un plan libertin avec 2 adultes consentants. C'était bizarre, mais sans plus. Moi, j'ai jamais violé personne, termine-t-il, empêtré dans un déni sidérant la salle. Et puis, il y a eu les mots forts de Gisèle Pellico s'adressant à cet homme. À quel moment vous allez reconnaître que vous m'avez m'avez violée. À quel moment je vous ai donné mon consentement? J'ai honte pour vous, assumez vos actes. Gisèle Pellicot fait ensuite une confidence. Depuis les faits qui lui ont valu 4 maladies sexuellement transmissibles, elle fait des examens tous les 6 mois. Le dernier n'est pas bon. Elle attend les résultats. Les médecins craignent un cancer du col de l'utérus, sans doute lié à ce qu'elle a subi. Elle termine en évoquant sa famille implosée, sa fille Caroline. Je n'ai pas réussi à être là pour elle, comprenez, face aux soupçons de l'inceste. Elle termine, le temps, je l'espère, nous rapprochera, car on était vraiment une famille soudée.
Mathilde Lemaire à Nîmes pour Inter. Après la médecine, c'était lundi, la physique. Hier, le prix Nobel de chimie a été remis ce matin à un trio. Un japonais, un britannique et un américano-jordanien. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
On va se plonger avec vous aujourd'hui dans le développement des structures métallo-organiques, puisque c'est l'objet de leur recherche qui leur valent donc cette récompense. De nouvelles formes moléculaires, on appelle ça des MOF en anglais. Ce sont des solides poreux, expliquez-nous.
Oui, et on peut les comparer à des éponges, mais solides. Les solides poreux, ça existe à l'état naturel. Citons le charbon actif qui purifie l'eau ou élimine les gaz intestinaux. Les zéolithes qui adoucissent l'eau. Les solides poreux MOF, eux, sont fabriqués par des chimistes. Il y a une quarantaine d'années, Richard Robson, l'anglais, a créé les premiers. Les deux autres lauréats les ont améliorés. À l'époque, il a mis ensemble deux ingrédients. Des composés organiques, avec du carbone donc, et des composés minéraux, de l'argile par exemple. Quand ces deux composés se rencontrent, ils se lient ensemble, ils se donnent la main si vous voulez, mais en laissant de l'espace. Ça fait une structure pleine de trous. Les chimistes ajoutent leur savoir-faire pour imposer les formes. Tels des architectes, ils fabriquent des structures géométriques, des cubes, des pyramides, des ballons de foot. Voilà pourquoi on peut utiliser l'image de l'éponge solide, mais conçue à l'échelle nanométrique, explique Christian Serre, chimiste au CNRS et membre de l'Académie des sciences.
Vous prenez l'exemple d'une éponge, sauf que les trous, au lieu d'être visibles à l'œil nu, ils sont l'échelle du nanomètre. Le nanomètre, c'est 10 angstroms. Une molécule de CO2, c'est moins de 4 angstroms, donc l'échelle de petites molécules.
Dans les trous, on peut mettre plein de choses, puisque c'est le principe d'une éponge, de l'eau, des hydrocarbures en cas de pollution, du CO2, de l'hydrogène. Les possibilités sont infinies.
Il y a un matériau de type MOF qui est en cours d'industrialisation pour capturer le CO2 émis par une cimenterie. Il y a une autre application qui est sortie avec l'armée américaine où ils intègrent certains de ces matériaux dans des habits de protection contre les agents neurotoxiques. Et là, le MOF, il a un rôle de non seulement il capture la molécule neurotoxique, mais il la dégrade.
Ça marche aussi pour déshumidifier l'air. On parle pour le futur de capter les PFAS ou les métaux lourds. 4 projets industriels sont en cours. Vous le comprenez, les MOF ont un potentiel absolument énorme. Un grand chimiste français, spécialiste des MOF, aurait pu figurer dans le trio, Gérard Ferret, mais il est décédé en 2017.
Merci Sophie Becherel. Demain, ce sera l'heure du prix Nobel de littérature. 13h26, le cinéma.
Hubert Bonisseur de la Batte.
Il s'appelle juste Leblanc.
Marcello.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
Mais qui est Kaiser Soze?
Et les conseils ciné du mercredi, signé Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence avec un film américain, mais très français. Ça s'appelle Nouvelle Vague.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie, du moins c'est ce qu'il te dira.
C'est un film sur un film que nous offre le cinéaste texan Richard Linklater, puisque nous voici dans les coulisses de la création d'un chef-d'œuvre du 7e art, À bout de souffle. Nous sommes en 1959, le mouvement de la nouvelle vague en est encore à ses balbutiements, et le jeune Jean-Luc Godard parvient à convaincre le bien nommé Georges de Beauregard de produire son premier long métrage. La suite, on le sait, appartient à la grande histoire du cinéma, et Linklater reconstitue ce moment suspendu avec un mélange bien dosé de dévotion et d'espièglerie. Les comédiens principaux qui ont la lourde tâche d'incarner des icônes telles que Godard, Belmondo et Seberg s'en sortent avec les honneurs. Nouvelle Vague, découvert en compétition à Cannes en mai dernier, se déguste comme un bonbon cinéphilique particulièrement addictif.
À l'affiche également, Météore, signé Hubert Charuel.
Oui, le jeune réalisateur retrouve sa scénariste Claude Lepape 9 ans après le succès de Petit Paysan. Il nous entraîne cette fois-ci à Saint-Dizier dans le quotidien grisâtre de deux potes de galère, Mika et Dan, qui peinent à s'extraire d'une spirale d'échecs et d'addiction.
On a besoin d'un contrat de travail.
Tu penses que tu pourrais nous prendre avec toi sur les chantiers ?
D'analyse toxicologique propre, d'accord ? Vous avez 6 mois pour faire vos preuves.
Il y a beaucoup de choses dans Météore et sans sans doute un peu trop. Cette chronique sociale et intime évoque en effet la précarisation de la jeunesse, l'alcoolisme, l'amitié, mais aussi le traitement des déchets nucléaires et la corruption, sans oublier les chats de concours et même la disparition de la plus grosse carpe du lac du Der. Le racisme, en revanche, est étonnamment absent de cette équation, alors même que Saint-Dizier est un important bastion du RN. Reste que l'énergie du projet est très touchante avec un trio de comédiens, Paul Kircher, Idira Zougli, Salif Cissé, qui impressionnent par leur justesse et leur engagement physique.
Direction la Grèce maintenant, Alexis, pour Nos Jours Sauvages.
Avec, là encore, derrière la caméra, un jeune réalisateur, Vassilis Kekatos, qui nous embarque à bord d'un van pour un road movie très féminin. L'héroïne du film, Chloé, est interprétée par la formidable Daphné Patakia. Chloé est une délinquante en rupture avec sa famille qui est prise sous son aile par une bande de marginaux sillonnant la Grèce rurale. Nos Jours Sauvages n'évitent pas tous les pièges du film itinérant ni du récit d'apprentissage, mais avoir des nouvelles de la jeunesse grecque des années 2020 est particulièrement précieux, bien que pas forcément très rassurant.
Quoi d'autre à l'affiche aujourd'hui, Alexis ?
Tron, Ares, blockbuster de science-fiction produit par Disney. L'Invasion, documentaire sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine réalisé par Sergueï Losnitsa. Et Super Grand Prix, un film d'animation allemand qui prend pour décor un circuit automobile.
Merci Alexis Demeyer. Je vous dis à mercredi prochain, 13h30 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, puis nos invités pour parler du service public au cœur d'un documentaire qui sort en salle aujourd'hui, il s'intitule Hors Service. Il parle de démissionnaires qui sont partis écœurés, mais il y a aussi tous ceux qui rejoignent le service public pour donner un sens à leur métier. Et vous, 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton, toujours à Fécamp, le marché aux poissons, mais on manque de pêcheurs. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, avec vous, nous sommes dans le Pas-de-Calais.
Pour un hommage à Pascaline Lemaire, 58 ans, le décès brutal de cette correspondante locale du quotidien Nord Littoral bouleverse la population et les élus locaux.
Et avec vous, Frédéric, un chanteur lyrique.
Le ténor Sébastien Guèze, ténor ardéchois, qui nous parlera d'une grande chanson d'amour, la chanson qui lui a donné envie de devenir artiste.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit ? En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un legs, le don d'une assurance vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveuglesdefrance.org. Fédération des aveugles de France, la citoyenneté, ça vous regarde.
Mercedes-Benz.
J'adore le mois d'octobre.
Oh, tu plaisantes. L'été est terminé, les jours raccourcissent.
Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz.
Ah, les beaux jours reviennent alors.
Du 1er au 31 octobre, prenez la vie côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389€ par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km, si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Nuageux au nord, plus ensoleillé au sud.
Effectivement, l'après-midi se passera sous le soleil entre la Nouvelle-Aquitaine, les Alpes et la Provence. Le ciel sera même quasiment tout bleu en Occitanie. Alors quelques bandes nuageux pourront quand même circuler essentiellement à l'est du Rhône, entre le Pays Basque et la Gironde. En revanche, sur la moitié nord, ce sont les nuages qui l'emporteront cet après-midi. Quelques éclaircies arriveront à se dessiner entre le sud-Bretagne, le Cotentin, la Vendée et l'ouest parisien, ainsi que vers les Ardennes. Elles seront parfois assez belles, mais entre les Hauts-de-France et la Normandie et entre la Lorraine et la Touraine ou encore dans les plaines et les vallées de Bourgogne-Franche-Comté, la couche de nuages bas sera plus compacte et l'après-midi restera bien gris. Les températures, elles, évoluent peu. Elles restent généralement 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison, avec 16 à 23 degrés en général. Prévoyez 19 degrés à Paris et à Lyon. On ira tout de même jusqu'à 25-26 degrés en Occitanie et en Corse.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Le service public est au cœur du débat en ce moment et cela recoupe par bien des points la crise politique que nous traversons. Trois exemples pris dans l'actualité récente, avant d'en parler avec nos invités. Il y a deux semaines, le député Les Républicains Philippe Juvin propose d'inciter les fonctionnaires qui le souhaitent à démissionner, quitte à les payer pour cela, je le cite, « Jamais le nombre de fonctionnaires n'a été aussi grand dans notre pays et la qualité du service au public si faible ». Fin de citation. Deuxième exemple, hier, une enquête de l'OCDE menée dans le monde entier nous apprend que seuls 4% des enseignants français trouvent leur profession valorisée, c'est beaucoup moins que dans les autres pays. Et puis dernière info, à Martigues, près de Marseille, voilà un an que des habitants se battent pour garder leur bureau de poste, quartier des Ferrières, La Poste, qui assure 4 missions de service public. Alors quel sens cela a-t-il de rendre un service public aujourd'hui en France? 2 contributions dans ce 13-14, celle de Margot Smirdek. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin anesthésiste réanimatrice de formation et vous témoignez aujourd'hui en salle aux côtés de 6 démissionnaires de la fonction publique dans un documentaire qui s'intitule « Hors service » et qui est signé Jean Boiron-Lajoux. Avec nous également, Émilie Agnew. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes haute fonctionnaire territoriale. Vous avez co-créé le groupe de réflexion « Le sens du service public » et vous avez publié en avril dernier « Puissance publique contre les démolisseurs de l'État ». C'est aux éditions de l'Aube. 01 45 24 7000 pour vos questions et pour vos témoignages. Margot Smirdek, vous avez travaillé dans une dizaine de services de réanimation, notamment pendant la crise du Covid. Et puis un jour, vous avez décidé de démissionner. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est l'aboutissement d'un long processus de réflexion et de questionnement, de tentative de passage à l'action pour essayer de retrouver du sens dans mon métier et d'essayer avant tout de bien faire mon travail, comme tant d'autres, dans le service public. Et quelque part, c'est en n'arrivant plus à correctement faire ce travail en finissant par me sentir complice, presque par moment en rentrant chez moi, que j'ai décidé de démissionner comme la dernière forme de grève.
Il y a eu un déclic chez vous, quelque chose qui vous a fait dire c'est inacceptable, je ne peux plus l'accepter?
Oui, je pense que c'est le jour, enfin, où j'ai, disons il y a un mois, où j'ai vu que j'ai commencé à dire du mal de certaines de mes collègues dans des dossiers médicaux. Alors, c'était bien écrit, hein, mais c'était, voilà, de me rendre compte de ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas en arriver là. Et puis, peut-être la prochaine étape, c'est de devenir maltraitante vis-à-vis de patients et de patientes, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de démissionner.
Vous témoignez donc dans ce documentaire de cette décision de démissionner qui a été la vôtre. À vos côtés, il y a 5 autres personnages qui racontent leur histoire réelle, comme Nabil, ce policier qui a démissionné.
Toi, t'as exercé combien de temps ?
14.
T'as vu une différence ?
Les différences, tu les vois quand on change de gouvernement.
Ah ouais ?
Parce que nous, tu faisais tant d'interpellations, t'avais 30 interpellations par mois. Après, t'as eu la carotte tu travailles bien, t'as 400 et quelques euros par mois. Le meilleur de la brigade touche une prime. Tu te rends compte que t'es plus au service de personne. On préfère que tu ramènes 10 mecs qui ont des bullshit dans leur poche, t'as fait 10 affaires, qu'un mec qui a 3 barrettes d'un coup, tu vois. C'est le nombre de bâtons que t'as ramené à la fin de la journée. Et ça, c'est flippant. Et là, tu sens que ça va plus, il y a un truc à casser. Et à quel moment ça a cassé ?
Voilà le témoignage de Nabil dans ce documentaire hors service qui peut-être vous parle, Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bretagne, c'est un peu votre histoire aussi. Vous avez quitté le ministère de l'Agriculture ?
Tout à fait, je me retrouve tout à fait dans les 2 témoignages qu'on vient d'entendre. J'ai été fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, puis fonctionnaire territorial, à chaque fois dans un poste d'ingénieur, puis d'encadrement. Et je suis parti un peu dégoûté.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Bah, d'une part, il y a la perte de sens du service public, et puis aussi des modes de, alors on pourrait dire gestion de personnel, inspirés du New Public Management de Tony Blair, et surtout de l'entreprise privée, alors que ça n'a rien à voir, mais en plus mal appliqué.
Et donc, vous faites autre chose aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai monté une coopérative.
Et vous êtes heureux ?
Alors, je suis désormais retraité, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de servir beaucoup mieux le bien collectif à travers la coopérative qu'à travers le service public.
Merci Gilles pour ce témoignage que je soumets à Émilie Agnoux, vous qui travaillez depuis plusieurs années sur ce sujet. C'est la même chose qu'on parle d'un mal-être dans la police, à la poste, à l'école, dans un hôpital ou dans un ministère comme Gilles à l'instant. Il y a des points communs ?
Oui, bien sûr, et ce n'est pas sans lien avec la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons des responsables politiques qui maltraitent les agents publics, qui maltraitent les services publics et qui maltraitent nos institutions publiques et qui se présentent finalement comme des réformateurs de génie alors qu'ils sont des désorganisateurs en chef. Et les conséquences sont très concrètes, hein. Je crois que là on a des exemples qui sont assez éloquents sur les réformes d'inspiration néolibérale des administrations qui ont conduit à un éloignement, à de la dématérialisation, à de la déshumanisation du service public et à de la qualité empêchée, à ce que j'ai appelé du service public coûte que coûte. Donc là, nous avons besoin de retrouver le sens du service public, de l'empathie institutionnelle, de réhumaniser nos services publics et à travers ça, la société française. Mais ça suppose par changer de logiciel, de discours et de pratiques politiques, parce que rien ne sera possible si on ne prend pas conscience du caractère mortifère d'un certain nombre de discours politiques. Je trouve que le chiffre de 4% d'enseignants qui considèrent que leur profession n'est pas valorisée par la société montre à quel point nous avons un défi qui est là devant nous.
C'est 4% immense qui se trouvent valorisés, hein, donc c'est 96 qui se trouvent dévalorisés. Est-ce que c'est une question, Émilie Agnoux, de moyens ou d'organisation ? Je citais le député LR Philippe Juvin il y a un instant, il livre ce chiffre. Il nous dit, si on compare les chiffres de 2025 à ceux de 2000, il y a 1 million de fonctionnaires en plus en France, soit une augmentation de 20%, alors que la population n'a pas augmenté d'autant, que les révolutions informatiques et numériques ont radicalement changé le monde des services. Est-ce qu'on est trop focalisé sur la question du nombre de fonctionnaires ?
Bien évidemment, là nous sommes sur des faux débats qui nous détournent des vrais sujets et détruisent notre capacité à agir et à nous projeter dans l'avenir. Si vous voulez, la question du nombre de fonctionnaires, c'est une obsession française qui est tout à fait fallacieuse, puisque la part de la fonction publique dans l'emploi total était de 22% en 1989 et est aujourd'hui de moins de 20%, donc c'est-à-dire à peu près un emploi sur cinq en France. Et en fait, ce qu'il faut bien qualifier, c'est que notre pays aujourd'hui
est plus autant, mais les services publics se dégradent, donc ça n'explique
et
pas
oui,
tout.
Tout à fait. Tout à fait, parce que notre pays est plus socialisé qu'administré. Si vous voulez, quand on compare avec d'autres pays de manière un peu sérieuse, on se rend compte que si on prend la part des emplois publics et des emplois privés qui sont dédiés aux différentes politiques publiques, eh bien la France n'est pas du tout mieux lotie que d'autres pays. Et ce qu'on voit, c'est que la part des dépenses dédiées spécifiquement au fonctionnement des services publics, elle est restée équivalente sur les 20 à 40 dernières années. Donc là, on est vraiment sur un faux débat. Et je crois qu'aujourd'hui, notre pays, il a besoin d'un projet politique rassembleur. Il a besoin d'espoir, de sérieux, de projection, de stabilité. Il n'a pas besoin de brutalité, de démagogie, ni de davantage d'impuissance publique. Et il devrait retrouver cette force du compromis qui avait fait la force du modèle social français au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui était fondée sur une puissance publique forte, sur des services publics, sur des fonctionnaires, avec deux objectifs complémentaires. D'une part, la cohésion sociale et d'autre part, la reconstruction de l'économie de notre pays.
Je voudrais donner la parole à Margot Smirdek. Votre parcours est intéressant. Vous nous avez raconté pourquoi vous avez démissionné, mais vous êtes retourné à l'hôpital. Vous avez repris un internat en psychiatrie pour devenir psychiatre. Pour quelle raison ?
Alors là aussi, c'est le fruit d'un long cheminement, de tentatives, d'essais, de deuil aussi, de certaines décisions politiques qui ne sont pas prises et de la non-responsabilité de nos décisionnaires. Et donc, j'avais honte quand j'étais médecin anesthésiste réanimatrice, j'avais honte quand j'étais démissionnaire, j'ai à nouveau honte quelque part de reprendre, mais...
Pourquoi vous avez honte de reprendre ?
Parce que je trouve que c'est pas dans
c'est
des bonnes conditions.
C'est extrêmement fort comme mot.
Oui, j'ai honte de pas bien réussir à correctement accueillir les patients et les patientes. J'ai honte de ce qu'on donne à voir de notre collectif. J'aspire à autre chose. Et réfléchissant où est-ce que je peux essayer de faire ma part au mieux pour que collectivement on vive dans une société plus apaisée et plus joyeuse. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être en essayant de devenir psychiatre, mais nulle part où je sois, je me sens fière aujourd'hui.
On entend votre témoignage extrêmement fort, Margot Smirdek. En même temps, il y a des personnes qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui vont du privé vers le public. Je voudrais qu'on donne la parole à l'un de ces personnages qui témoignait il y a quelques semaines dans un reportage de France 2. Il est chirurgien, il s'appelle Hugo Lancien.
Quel métier, putain. Quand on a vécu le Covid dans un CHU, on sait que les choses sont compliquées, mais ce sont les chirurgies plus lourdes et surtout les travails en équipe et surtout avec d'autres spécialités qui m'intéressent. Et c'est faisable uniquement dans un centre universitaire.
Donc maintenant, il est dans un CHU. Est-ce que ça vous ragaillardit en quelque sorte, Margot Smirdek, d'entendre le témoignage de quelqu'un qui travaillait dans une clinique et qui va vers un CHU ?
Non, pas vraiment. Je me suis intéressée à tous les modèles d'organisation en santé, privé à but non lucratif, public. Et la maladie est la même partout. Elle n'est pas aussi importante dans certains endroits, certes. J'ai moi-même travaillé dans un établissement public privé à but non lucratif. Et voilà, quand j'entends Philippe Juvin, je me dis c'est triste parce que je crois que alors qu'il est médecin, il n'a rien compris à la maladie collective qui nous traverse. Et voilà, que sa solution, je ne la comprends pas. Je pense qu'il n'a pas compris la maladie démocratique qui nous traverse.
La proposition qu'il a faite il y a quelques jours d'inciter financièrement des fonctionnaires à quitter la fonction publique pour faire diminuer le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Il faut préciser, Emilia Niou, qu'on n'est pas obligé d'être fonctionnaire pour rendre un service public, ni même de travailler dans le secteur public.
Oui, non, mais c'est en ça où le débat est totalement délirant, parce que l'enjeu, c'est de savoir comment on oriente la puissance publique, comment on utilise nos services publics, comment on fait travailler nos agents publics en leur permettant d'avoir des bonnes conditions de travail, de rémunération, et donc de faire de la qualité, parce que c'est ça qu'il y a derrière la souffrance éthique qui est ici exprimée, et comment on répond aux besoins de la société française. Vous savez, le département de l'Aude qui a subi des incendies cet été, les agriculteurs, les élus, les habitants, ils attendent plus d'intervention.
Les pompiers rendent un service public, par exemple.
Ouais. Bien évidemment. Mais vous avez aussi des besoins en assistante maternelle pour garder les enfants et permettre aux femmes de travailler plus sereinement. Besoin de plus d'accompagnement des élèves en situation de handicap dans nos écoles. D'aides-soignants pour accompagner nos aînés face au vieillissement et à la dépendance. Besoin de plus de policiers, de gendarmes, de magistrats pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On évoquait tout à l'heure le procès des agresseurs de Madame Pellicot. Les besoins sont là. La question est de savoir qui prend en charge ces besoins. Est-ce que c'est le secteur public ou est-ce que c'est le secteur privé? Est-ce qu'on garde la maîtrise publique sur ces enjeux-là? Parce que
merci,
je crois qu'il ne faut pas
être naïf
sur les rapports de force qui se jouent aujourd'hui.
Du temps qui nous était consacré, qu'on pouvait consacrer à ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Puissance publique contre les démolisseurs d'État, aux éditions de l'Aube. Et puis hors service, le documentaire dans lequel vous témoignez, Margot Smirdek, qui est en salle aujourd'hui, 13h46. Merci. Notre feuilleton nous conduit toute cette semaine au marché aux poissons de Fécamp, institution locale. Nous y suivons Nathalie Le Canus, sa patronne. Problématique pour elle, trouver du poisson, car les pêcheurs sont de moins en moins nombreux et au fil des années, les bateaux disparaissent.
Là, donc, vous avez la criée. Donc, là, c'est toutes les chambres froides réfrigérées. Où est entreposé le poisson quand il arrive. Là, vous avez tous les noms des acheteurs, tous les noms des gens, et puis vous retrouvez vos lots là et vous venez récupérer, sauf que ce matin, ils ont eu la gentillesse de nous les ramener.
C'est vrai.
Stéphane, t'as vu là par rapport à ce que vous aviez ce matin à la vente, donc du Santa Cruz, ça, des beaux petits macros. Et puis là, bah, j'ai acheté de la petite sole blonde. On aimerait adorer qu'il y ait beaucoup de pêche en gros, mais malheureusement, il y a moins en moins de pêche et ça devient compliqué.
Bonjour, je suis Stéphane Savoie, le PDG de la criée de la Côte d'Albâtre.
On se voit au moins une fois par semaine et puis on discute de ce qu'il y a sous la criée. Quand vous voyez son étal, c'est, tout est bien mis en valeur, quoi. Et puis vous voyez les gens qui sont devant les étals à regarder, etc. et qui n'hésitent pas à prendre des produits locaux, justement. On sait que la consommation en France est plus de 40% de saumon, etc. Ici, vous voyez un petit peu de saumon, mais vous voyez beaucoup de produits locaux et différentes variétés de poissons, quoi.
Le marché aux poissons de Fécamp est un de nos clients qui achètent régulièrement sous la criée les produits de la mer, donc débarqués ou ramassés par la criée de la côte d'Albâtre. Puis on voit bien, bon, il y a une période toujours assez creuse entre mai et septembre sous les criées, mais on voit bien que la difficulté aujourd'hui, c'est les apports de produits de la mer qui sont beaucoup moins conséquents qu'avant. Nous, on avait un produit phare ici qui est à haute valeur ajoutée, c'est la sole. Et l'année dernière, en fait, les quantités de sole débarquées sont passées de 200 tonnes à 100 tonnes, donc réduites de moitié. Cette année, c'est encore pire.
J'ai changé de métier. Je vais changer de métier, là. Je change de métier bientôt. La semaine dernière, c'était France 3, là, c'est là. Je vais finir. Je t'ai enlevé ça parce qu'on va faire un petit tour.
La partie pêche qui est là. Donc avec les bateaux qui sont en train de débarquer. Alors vous avez des bateaux qui sont en train d'armer pour aller pêcher la coquille Saint-Jacques. Donc c'est un lieu qui est toujours très vivant.
Donc on va regarder ce que j'ai acheté ce matin, éventuellement Fécamp. Okay.
Il y a de moins en moins de pêcheurs, il y a de moins en moins de bateaux. Et aussi il y a une question générationnelle où il faut aussi que ces métiers donnent envie, comme les nôtres d'ailleurs. Mais effectivement, il y a à Fécamp, vous avez beaucoup moins de bateaux qu'avant. Vous avez les quotas, vous avez beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte depuis toutes ces années. Donc moi, j'ai vu toute cette transformation.
Mais aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est la raréfaction des produits pêchés en Manche. Et le deuxième problème, c'est le vieillissement de la population et des bateaux aussi. Et on voit qu'en fait, l'attrait des jeunes pour venir sur le monde de la pêche, il n'est pas formidable du tout, quoi. Aujourd'hui, on a un lycée maritime ici. En général, on voit que ce sont plutôt des enfants issus de familles de pêcheurs, bah, qui ont la vocation de reprendre la suite de leurs parents ou qui veulent embarquer sur des bateaux de pêche. Sinon, après, c'est plus ils se dirigent plus vers les ports autonomes, le dragage, les bateaux éoliens, les choses comme ça.
Une semaine dans leur vie à Fécamp, toute cette semaine, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, 13h50, Cécilia Arbonnat nous parle aujourd'hui d'un lieu dans l'actualité. Et Cécilia, nous sommes à Blériot-Plage, Pas-de-Calais, où étaient célébrées lundi les obsèques de Pascaline Lemaire. La mort brutale la semaine dernière de cette correspondante du journal Nord Littoral a bouleversé la région de Sangatte et de Calais.
Oui, c'était une sentinelle de l'information de proximité. Ses articles parlaient du quotidien, une nouvelle friperie solidaire, un tournoi de billard, l'élection d'une reine de beauté. Pendant 20 ans, Pascaline Lemaire a mis en lumière son Calaisie. On la croisait toujours avec un stylo et un calepin à la main. Curieuse et infatigable, elle parcourait des kilomètres au volant de sa Fiat Panda noire. Ludovic Boutin, son rédacteur en chef, raconte « Pascaline, c'était une passionnée, férue d'histoire et de généalogie. Elle m'appelait tous les jours pour me proposer un sujet. Son moteur, donner de la visibilité au monde associatif, sportif ou culturel. Bref, elle aimait les gens. En retour, il paraît qu'il la trouvait authentique et touchante, comme quand elle débarquait à une inauguration ou une cérémonie accompagnée de son père Bernard, dont elle était devenue l'aidante.
Pascaline Lemaire était donc une correspondante locale de presse.
Oui, on estime qu'ils sont environ 20 000 en France. Souvent, ce sont des secrétaires de mairie, des enseignants, des étudiants ou des retraités. Avant d'écrire dans le journal, Pascaline Lemaire avait entamé des études de philosophie. Et puis, par nécessité, elle s'était lancée dans la vie active. Elle a travaillé chez Flunch et chez Aldi. Et puis, en 2008, elle a décidé de faire enfin ce qu'elle voulait depuis toujours, écrire. Elle est devenue les yeux et les oreilles de son territoire.
Et des élus de tous bords saluent sa mémoire.
Oui, sur sa page Facebook, la maire de Calais, Natacha Bouchard, a posté ceci. Elle donnait une voix à chacun pour valoriser ce qui faisait battre le cœur de nos villes et villages. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de vie publique, complète à son tour Guy Allemand, c'est le maire de Sangatte. Mmh. C'était une avalanche de messages émus sur le site de ma commune quand j'ai annoncé sa disparition et l'élu de poursuivre. J'ai eu une dizaine de collègues au téléphone. Ils me disent tous la même chose. Elle va laisser un grand vide. La dernière fois que Guy Allemand a croisé Pascaline Lemaire, c'était au conseil municipal il y a 2 semaines. Elle sortait à peine de l'hôpital, mais elle tenait à couvrir la séance. Silhouette frêle, cheveux bruns, très longs, souriante malgré une santé fragile. Pascaline Lemaire avait 58 ans. Elle était diabétique. Elle s'est éteinte chez elle, le 1er octobre, à ses côtés, son chien, Gabin, les chats du quartier qu'elle avait recueillis, et puis son ordinateur, sur lequel elle aimait raconter, avec empathie, d'autres vies que la sienne.
C'est la France, signée aujourd'hui Cécilia Arbona. C'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier. C'est un chanteur lyrique que vous recevez aujourd'hui. Le ténor, Sébastien Guèze.
Il est l'un des invités du festival Atmosphère, qui se tient à Courbevoie, d'aujourd'hui à dimanche. L'occasion, notamment pour lui, d'évoquer son film, La Bohème de 2050, visible également sur la plateforme de France Télé. Et c'est la voix de la Britannique Desiree qu'il a souhaité que l'on écoute avec la chanson Kissing You, qu'on peut entendre dans le film Roméo plus Juliette.
Cette chanson, elle surgit lorsque je suis, on va dire, adolescent. Et c'est pour moi un moment clé où je viens de découvrir ma voix naturelle de ténor, si je puis dire. Je ne me suis pas encore ni inscrit au conservatoire ou quoi que ce soit, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et je découvre ce film, qui est Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. D'ailleurs, cette chanson incarne la rencontre de Roméo et Juliette. Pour moi, ça incarnait l'idéal féminin, l'idéal de l'amour, l'idéal de la beauté aussi artistique, de ce mélange des arts, de cet art qui s'était réinventé à la manière moderne d'un Roméo et Juliette. C'est une chanson qui a réussi à me mettre dans cet état un petit peu de réflexion, de jeune homme qui se construit et qui s'imagine, moi je suis originaire d'Ardèche, dans les montagnes ardéchoises, qu'à travers finalement ce moment, il y a une étincelle qui naît, une flamme qui apparaît, et je peux réussir, je me mets à rêver de moi aussi pouvoir faire un jour un film, d'être sur scène en tant que chanteur. En fait, c'est pour moi la réalisation d'une émancipation possible des montagnes vers un monde culturel qui s'ouvre à moi.
Quand vous entendez cette chanson dans ce film ?
Oui, c'est un grand moment d'émotion. Et pour moi, ça incarne vraiment ce moment de transformation un peu d'un papillon qui va éclore, qui va sortir de son cocon et de l'homme qui va devenir artiste. Watching stars without you, my soul
cries. C'est en 1996, Frédéric, qu'est sorti ce film Roméo plus Juliette.
Avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Et bien sûr, quand il l'a vu, Sébastien Guèze, qui avait 17 ans à l'époque, s'est un peu identifié à Leonardo.
En tant que jeune homme, forcément, on s'associe à ce héros romantique. Au-delà du personnage, c'est quand même le rôle de Roméo. Donc, on s'imagine vouloir conquérir le monde à la manière d'un Roméo très romantique comme ça. Mais je dois dire que, si je me rappelle, si je suis tout à fait honnête, à l'époque, je me demande si je ne m'étais pas mis en tête que j'écrirais une lettre à Claire Danes, quelque chose comme ça, dans un anglais sans doute très médiocre. Mais en disant que ce film et son interprétation avait vraiment été un choc, je peux pas le dire autrement, j'ai même pas le souvenir si c'est une démarche que j'ai faite, j'arrive pas à me rappeler. Mais en tout cas, je me suis dit à ce moment-là, cet art est tellement beau, être artiste c'est tellement beau, pour moi ça a été vraiment un catalyseur de ce que je voulais faire de ma vie.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette voix ?
Ce que j'aime dans cette voix, c'est qu'elle ne triche pas, on sent vraiment qu'il y a une forme de sincérité, d'émotion pure et qui nous traverse. Et à l'image de la scène du film aussi, qui est simple, qui est belle et pour l'éternité, c'est ça qui est beau.
Vous vous rappelez du cinéma où vous avez vu ce film ?
Oh oui, c'était à Privas, en Ardèche.
Ah, 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 ah.
que cette chanson, il vous arrive de la mettre chez vous ?
Oui, ça m'arrive. Après, pour être tout à fait franc, pas trop non plus, parce que comme elle est à un moment clé, avant ce moment clé de vouloir s'émanciper de tout cela et de parcourir le monde, il y a eu l'avant. Et l'avant n'était pas forcément rose. J'ai eu une enfance assez solitaire dans les montagnes, et souvent je me baladais dans les forêts seul avec mon chien. Ma réalité au quotidien, c'était assez celle-ci. Voilà, à part aller à l'école. Bon, après, quand vous habitez dans la campagne, vous habitez dans la campagne. Donc, écouter cette chanson me ramène aussi un peu à cette phase-là, un petit peu de souffrance, un peu solitaire. Plus Werther que Roméo et Juliette, si on devait parler de rôle. Mais voilà, en tout cas, cette chanson a été la bascule vers le monde, vers l'ouverture au monde.
Kissing You, Des Jouy. C'était donc, Frédéric, le choix du ténor Sébastien Guèze.
Sébastien Guèze, que vous pourrez retrouver au festival Atmosphère qui se déroule jusqu'à dimanche à Courbevoie.
Merci Frédéric, et à demain. À suivre Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire.